Bonsoir et bon début de semaine à tous. Province du Sud-Kivu, situation tendue ce lundi à Uvira où des milliers d'habitants ont manifesté pour exiger le départ du général Olivier Gassita, récemment affecté comme commandant en charge des opérations et renseignements à la 33e région militaire. La population s'oppose depuis quelques jours à cette affectation, accusant ce haut gradé de l'armée d'être parmi ceux qui ont facilité la prise de la ville de Bukavu par les rebelles de l'AFC M23. L'armée, elle, de son côté, réaffirme son soutien total au général Gassita. Cette marche annoncée comme pacifique par la société civile a été réprimée par les forces de l'ordre. Des morts et des blessés sont signalés. Quelle analyse faire de cette situation? Nous en parlons avec François Iguilima, qui est acteur de la société civile. François Iguilima, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Monseigneur Pax André Marikito Massimango, coordonnateur national de la Coalition nationale pour la CPI-RDC. Il est aussi coprésident du réseau international d'accompagnement des victimes d'atrocités, également coordonnateur régional Afrique de la Coalition des ONG pour la démocratie et la justice en Afrique. Monseigneur Pax André Marikito Massimango, bonsoir.
Bonsoir, Madame la journaliste.
Nous attendons aussi dans ce débat Didier Kabi, qui est ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement provincial du Sud-Kivu. Il a été délégué par le gouverneur de province. Nous essayons de le joindre sans succès. Monsieur Didier Kabi, merci d'ouvrir votre téléphone pour participer à cette émission à Bukavu Sud-Kivu. Vous nous suivez sous la 95.3 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net, sur l'ISTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre en direct cette émission sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans ce magazine et toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons ce débat.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, des milliers d'habitants ont manifesté ce lundi à Uvira pour exiger le départ du général Olivier Gassita. Cet officier militaire des FARDC est en charge des opérations et renseignements militaires dans la région. Cette marche annoncée comme pacifique par la société civile a été réprimée par les forces de l'ordre. Des morts et des blessés sont signalés. La ville d'Uvira entre dans son 7e jour sans activité. René Litimolera pour le reportage.
Parti des Convivira pour la mairie, plusieurs manifestants réclamaient le départ immédiat du général Olivier Gassita. Selon des sources militaires, la situation a dégénéré après le dépôt du mémorandum à la mairie, rendant les manifestants incontrôlables. Les forces de l'ordre sont alors intervenues pour les disperser. Des sources locales évoquent un bilan provisoire d'au moins 4 morts et plusieurs blessés. Le maire d'Uvira affirme, pour sa part, ne pas être en mesure de fournir un bilan exact. De son côté, le député provincial Bissi Moissinderi dénonce l'usage des balles réelles par les forces de sécurité pour disperser les manifestants.
Nous pensons que les forces de l'ordre sont appelées à encadrer, à protéger les manifestants. Ils ne sont pas permis, évidemment, d'utiliser les balles réelles contre une manifestation pacifique. Nous, en tant qu'élus, nous appelons évidemment toute la population au calme et à la retenue.
Depuis une semaine, la population d'Uvira s'oppose à l'affectation du général Olivier Gassita, l'accusant d'avoir facilité la prise de Bukavu par les rebelles de l'AFC M23. En première ligne de cette contestation figurent les miliciens Wazalendo. Pourtant, il y a 3 jours, le porte-parole de FARDC a affirmé que le général Gassita jouit de la confiance de l'armée et des autorités.
Merci Ronelli Tibolera pour ce reportage. La réalisation me signale que Didier Kabi est en ligne. Bonsoir Monsieur Kabi.
Bonsoir, madame.
Alors, vous êtes ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Vous venez de suivre ce reportage de Ronelly Tibonera sur la situation tendue ce matin à Uvira pour exiger le départ du général Olivier Gassita, cet officier militaire des FARDC en charge des opérations et renseignements militaires dans la région. D'abord, qu'est-ce qui explique cette situation?
Merci beaucoup, madame, pour la question posée. Comme vous avez dit, je m'appelle Didier Kabi Bachizi, le porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Je me trouve actuellement à Uvira, où toutes ces activités se sont passées aujourd'hui, l'avant-midi. Comme vous avez demandé, depuis l'avènement de la nomination du général Olivier Gassita, et là je vais rappeler la date du mardi passé, dès septembre, une série de revendications ont commencé à naître, et de ces recommandations, de ces revendications, la population, je veux dire une partie de la population de la ville d'Uvira et nos patriotes wazalendo ont revendiqué ne pas accepter la nomination et l'affectation du général Olivier Gassita comme commandant adjoint en charge des renseignements et des opérations à la 33e région militaire de cette groupe. Ces revendications sont allées jusqu'à exiger, sur l'initiative de la société civile, des journées ville morte dans la ville d'Uvira depuis mardi passé. Et au cours de ces 4 journées de revendications, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, a instruit Monsieur le maire de la ville d'organiser, parce qu'actuellement il se trouve à mission officielle à Kinshasa, et cette question est parmi les raisons pour lesquelles il se trouve là-bas, pour rencontrer les autorités afin que l'on trouve une solution durable.
Et quelle est la situation cette nuit à Uvira? Est-ce que c'est toujours tendu ou ça s'est calmé un peu?
Je dois dire que ça s'est calmé depuis ils ont déposé leur mémo entre les mots de Monsieur le maire de la ville. Parce qu'après, moi personnellement, j'ai fait un tour sur tous les acteurs de la ville d'Uvira, en commençant par la frontière jusqu'à Kalimabenge, parce que je suis même allé compatir avec tous les blessés à l'hôpital militaire du garnison d'Uvira et à l'hôpital général de référence d'Uvira, parce que ce sont là les deux structures qui ont accueilli le blessé.
Justement, on parle des blessés et
la situation,
et des
en
morts.
Tout cas, après cette manifestation, elle s'est rétablie et les gens ont commencé à circuler, mais il s'est tout simplement constaté que les boutiques, les stations, le magasin qui ont fermé depuis le matin au regard de monde qui ont été donnés de part et d'autre n'ont pas ouvert malheureusement. Mais je dois dire que après il y a plus eu de situations compliquées, les tensions se sont apaisées juste après avoir déposé le mémo.
Alors, on parle des morts et des blessés. L'armée aurait ouvert les feux sur la population qui manifestait. Est-ce que vous confirmez cela?
Je dois encore donner une précision par rapport à tout ce qui se passe de part et d'autre dans les réseaux sociaux et dans l'opinion. J'ai compris que l'ennemi a profité de cette occasion pour faire passer des messages qui n'en valent pas la peine. Qu'est-ce que je veux dire exactement? Juste après avoir déposé le mémo, je suis allé immédiatement à l'hôpital militaire des garnisons d'Uvira, où personnellement j'ai visité
trois blessés, parmi lesquels deux militaires et un civil. Et à côté, il y avait juste un seul mort. C'est un jeune garçon, un enfant de 7 ans, qui a eu une balle par sa poitrine et qui a traversé jusqu'au niveau du dos. Et sur les chats, il a trouvé la mort. Et en quittant l'hôpital militaire de garnison d'Ouvira, je me suis dirigé immédiatement à l'hôpital général de référence d'Ouvira. Et là, j'ai rencontré les médecins directeurs avec qui nous avons fait un tour de toutes les salles. Et dans les différentes salles et aux urgences à l'hôpital général, nous avions à enregistrer également sept blessés, parmi lesquels un blessé grave. C'est celui qui s'est trouvé interné au niveau des soins intensifs. Mais parmi les six autres, il y a d'ailleurs des qui ont suivi des soins appropriés juste quand ils sont arrivés. Et comme ce n'était pas grave, ils sont même rentrés chez eux. Donc il n'y a qu'au niveau de l'hôpital général maintenant, il y a quatre au niveau des urgences et un au niveau des soins intensifs. Et de l'autre côté, il y a trois, dont deux militaires et un civil. Ce qui fait au total neuf blessés et un mort. Voilà le bilan actuel au regard de ce que j'ai fait comme tour des différentes institutions sanitaires qui ont accueilli les blessés après la marche.
Alors, cette marche annoncée comme pacifique par la société civile, pourquoi a-t-elle été réprimée?
Oui, exactement, c'est à ce niveau que je voulais en arriver. Cette marche initiée par les structures de la société civile avait pour objectif, comme nous l'avions dit, parce que la marche a été demandée au préalable. Ils ont prévenu le maire de la ville qu'ils allaient marcher. Et comme notre constitution le prévoit, nous sommes dans un régime pas d'autorisation mais d'information. Le maire a autorisé que la marche ait lieu. Et le maire a insisté sur le fait que cette marche devrait garder son caractère pacifique. Mais fort malheureusement, juste après que les mémos aient été déposés, parce qu'il faut qu'on se le dise, depuis le matin jusqu'à 11h30, les choses étaient très bien, les gens ont marché, ils ont scanné des champs là dans les sens d'exiger qu'on puisse retirer le général. Mais à un certain niveau, vous allez constater même que les patriotes ouazalendo ont d'ailleurs accompagné cette marche sans armes, justement pour respecter les caractères pacifiques que nous voudrions que la marche puisse exactement avoir. Mais ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est que exactement quand on a fini par déposer le mémo, le maire de la ville a promis aux manifestants que leurs revendications sont arrivées et il va les faire parvenir à la haute hiérarchie pour qu'on puisse trouver une solution. C'est en ce moment-là que une partie des manifestants ont estimé que ils devraient avoir une réponse immédiate juste après avoir déposé le mémo. Et pourtant, ces dossiers, comme vous le savez, ce n'est pas un dossier qui rentre dans les domaines des compétences de l'administration civile. Donc, les décisions pour nommer X ou Y dans l'armée est un domaine réservé. C'est une matière qui relève de la compétence exclusive du ministère de la Défense qui ne rentre pas dans notre compétence en tant que civil, que ce soit les maires, que ce soit les gouverneurs de province. Alors, le maire de la ville a essayé de montrer aux manifestants que c'est déjà beau que les mémos aient été déposés et que finalement, il va les transmettre à qui de droit. Ils n'ont pas voulu comprendre et c'est que certains d'entre eux ont été instrumentalisés encore par les gens qui ont des intérêts avec l'ennemi pour vouloir assiéger l'endroit où se trouvait le général. C'est comme ça que, à un certain niveau, malheureusement, il y a eu des tirs de part et d'autre. et de ces tirs, c'est comme ça que je vous informe pour éclaircir l'opinion que il n'y a pas eu de morts, autant de morts, 10 ou 15 comme certains l'ont rapporté dans les camps de l'ennemi, mais c'est exactement un seul mort et c'est ce petit garçon qui a trouvé la mort malheureusement, et à son âme, et tout ça que d'ailleurs le gouverneur de province nous a mandaté pour aller compatir avec sa famille.
Alors, monsieur Leporte,
voilà un peu les éléments que nous avons à notre disposition au stade actuel.
Alors, monsieur le porte-parole, il y a quand même la société civile, hein, la coordination de la société civile qui dénonce le fait que pendant cette période trouble, les autorités provinciales installées à Uvira sont absentes de la ville, hein, Uvira qui est aujourd'hui le chef-lieu temporaire de la région du sud Kivu. Toutes les autorités sont presque à Kinshasa, alors que la situation est quand même assez volatile dans cette partie du pays. C'est la panique de plus en plus la population civile.
Mais madame, cette société civile qui estime que les autorités provinciales ne sont pas à Uvira, où est-ce que moi je suis maintenant où je vous parle? Parce que j'ai été là-bas. Si vous voulez les images, je peux vous partager les images, je peux vous partager les vidéos que je fais avec les responsables de ces différentes institutions sanitaires que je visitais. Aider l'autorité provinciale, son excellence monsieur le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Porousse, qui s'adit qui est actuellement à mission à Kinshasa sur demande urgente de son excellence monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Alors, ceux qui disent que, par exemple, les autorités sont à Kinshasa, non, l'autorité est là sur cette demande, sur cette invitation. Mais quand même, le gouvernement provincial est opérationnel à Uvira, où moi je me trouve actuellement pendant que nous sommes en train de discuter avec vous.
Merci.
Alors, moi, je pense que c'est très important.
Allez-y.
S'il vous plaît, madame.
Allez-y.
Moi, je pense que c'est très important de faire un distinguo entre la société civile, la vraie, et les quelques individus se réclamant appartenir à la société civile, mais qui jouent le jeu de l'ennemi. Voyez-vous? Donc ce sont là les personnes qui aujourd'hui essayent d'entêter une partie de notre population pour que finalement l'ennemi puisse nous infiltrer. C'est à ce niveau là-bas que d'ailleurs nous sommes en train de sensibiliser la population pour que ce qui nous divise, nous puissions les régler à l'interne, pour que cet ennemi sente que exactement nous sommes unis et nous avons besoin de les repousser jusqu'à son dernier retranchement.
Merci.
Alors,
Didier Kabi.
Venant de la société civile qui n'est pas la vraie, vous devriez vous méfier de ces genres de formation, madame.
On vous garde encore dans cette émission, Didier Kabi. François Iguilima, vous êtes acteur de la société civile. Vous venez de suivre les propos de Didier Kabi Bachizi, qui est ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Il y a une vraie et fausse société civile et cette dernière essaye de manipuler la population, instrumentaliser la population. Voilà, vous qui êtes du côté de la population, je l'ai dit, vous êtes acteur de la société civile. Pourquoi cette population d'Uvira s'oppose-t-elle avec une telle force à l'affectation du général Gassita?
Oui, je vous ressalue, madame. Je suis du moins inquiet d'attendre que le ministre des Communications, en ce moment, puisse évoquer la vraie société civile et la fausse société civile, madame. Je rappelle d'abord, madame, que c'est depuis le 14 février que notre ville d'Uvira n'a pas connu de dirigeants parce que tous presque avaient fui, les uns à Kinshasa, les autres à Kalemie, à Lubumbashi, jusqu'au Burundi. Madame, c'est par la sensibilisation de la société civile et les Wazalendo que nous avons réussi à résister contre l'ennemi qui s'est trouvé jadis et au niveau de Bukavu qui descendait paisiblement jusqu'à Uvira. Cette sensibilisation, madame, a prouvé au moins la rigueur de la population d'Uvira la plus résistante pour ne pas permettre son entrée facile dans les territoires d'Uvira. Madame, il y fallait attendre à février les moments en cascade où les militaires et autorités politico-administratives ont fui, exceptionnellement le maire de la villageoise, que nous saluons en passant. Il fallait attendre, madame, le mois de mars-avril, que certaines autorités commencent à entrer à Ouvira. Ils ne pouvaient rentrer que parce que ces centres, les sociétés civiles, les Alènes ont résisté. Évidemment, avec l'accompagnement de certains braves militaires, que nous saluons en passant, dont le capitaine Patou et consort. Et dès lors qu'ils se sont installés à Ouvira, madame, curieusement, la société civile a rappelé un devoir à l'autorité de se placer à Ouvira, à côté de l'institution provinciale. Et depuis le mois d'avril jusqu'à ce jour où je vous parle, madame, aucune autorité provinciale ne s'installe à Ouvira. Ça signifie qu'ils viennent juste pour travailler et les soirs rentrer au Burundi. Ils y vont pour faire quoi, madame? Pour y passer nuit? Parce qu'ils estiment cela qu'il y a la paix. Ne venir le matin ici à Ouvira, madame, pour chercher de l'argent. L'argent de payer les citoyens et taxes, qui payent les taxes et impôts, qui leur permettent évidemment de jouir au Burundi, qui leur permettent de s'acheter de jolies maisons, qui leur permettent de faire cette jouissance extrême au Burundi, en abandonnant la population civile qui ne cesse jour et nuit de rappeler les devoirs à l'autorité provinciale d'être à ses côtés, évidemment, pour lui faire parvenir ses réclamations et y trouver des voies de sortie, madame. En revenant sur la question des événements, des contestations
de ce matin,
de l'affectation du général Olivier Gassita, madame, nous rappelons que le général a été affecté à Ouvira. Nous avons été informés à l'occasion. Nous avons exprimé qu'il était important qu'on sache, comme nous avons été des veilleurs de sécurité à Ouvira, la personne qui venait nous accompagner dans cette même sécurité. Parce que, étant en charge des opérations renseignement, il était nécessaire que la population se confie aussi à lui et savoir au moins à travers son passé, s'il pourrait nous être plus utile, n'est-ce pas, dans cette opération qui n'est pas directe, une charge facile accordée à tout le monde. C'est ainsi, madame, qu'une série d'activités a commencé. Je vous l'ai dit en passant qu'il y a d'abord une série de villes mortes. Ce qui est marrant dans tout cela, madame, il y a eu la série des villes mortes qui a commencé qui a commencé ce mardi ici, comme le disait le ministre. Et jusque-là, aucune autorité n'a été présente au gouvernorat, serait-ce que pour appeler les acteurs de société civile et échanger avec eux sur cette question, madame. Du lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est à travers les réseaux sociaux, et certaines aussi à travers des invitations, que nous voyons le maire de la ville nous appeler pour un échange inclusif sur la question de l'affectation de Gassita. Madame, nous avons personnellement décrié la méthodologie de ce travail, parce que dans la salle de la mairie, on mélangea évidemment les acteurs de la société civile, y compris Oazalendo, et différentes mutualités. Ce qui était difficile d'avoir une voie de sortie, il était nécessaire qu'on les fasse en consultation. Et par la suite de cette consultation, on pouvait probablement trouver une voie de sortie. Madame, c'est ainsi qu'à l'occasion, la société civile signala au maire de la ville qu'elle ne va pas reculer. Elle va durer se manifester pacifiquement jusqu'à la mairie de Vira pour déposer son mémo de contestation de son affectation.
Alors, vous contestez son affectation. S'il vous plaît, monsieur Iguilima, il a été affecté depuis le mois de janvier. Pourquoi c'est maintenant seulement que vous organisez des marches pour contester son affectation?
Je vous disais que nous sommes sentinelles de la sécurité à Ouvira, madame. Nous avons été abandonnés par les autorités et les militaires. Il était normal que la société civile fasse cette action.
pour prouver que celui qui viendrait devait se mettre à côté de la population, réitérer sa confiance, parce que c'est la population qui doit l'accompagner dans cette démarche. Madame, avant cette contestation, je vous rappelle qu'il y a au moins 2 semaines, que la même société civile voulait organiser une ville morte pour exiger à l'État congolais de récupérer le Bukavu et d'autres entités occupées par M23. Parce que nous, on constate, c'est comme si on était en fait à Uvira, alors que c'est une ville passagère pour les institutions, et les politiques, et l'armée congolaise semblent oublier Bukavu. Là, nos concitoyens souffrent avec l'occupation du M23, semblent oublier Goma, là où nos concitoyens souffrent avec l'occupation du M23. Madame, depuis février jusqu'aujourd'hui, ça fait 6 mois, on n'a pas ni geste ni action qui fait croire que ces entités mériteraient d'être récupérées aussitôt par les gouvernements. Société civile en a appelé à la conscience du gouvernement que non, c'était le pouvoir de le faire. Alors, cela devait avoir une analyse inclusive, aussitôt préparer cela. Nous apprenons maintenant l'arrivée du général Olivier Gassita. Nous avons dit qu'il faudrait passer par cette action. Comme vous me demandez la question de savoir pourquoi seulement il était affecté depuis le mois de janvier et que vous aviez manifesté au mois de septembre, madame, c'est au moment où nous apprenons son affectation que nous, c'est le moment qu'il arrive, parce que dès lors qu'il était affecté au mois de janvier, il n'a jamais été à Uvira pour dans ses opérations militaires. Je reconnais seulement qu'il a été dans la plaine, juste dans les cadres des stages jusqu'à Kinshasa. Mais dire dans les opérations, madame, nous n'avons jamais été informés, sauf pour le mois de septembre quand il est arrivé. Et c'est pourquoi nous avons fait. Nous sommes sentinelles de notre sécurité, madame.
Oui, sentinelles de votre sécurité.
C'est une passion de la résistance.
Sentinelle de la sécurité, d'accord, vous l'accusez d'être parmi ceux qui ont facilité la prise de la ville de Bukavu par les rebelles. Est-ce que vous avez des preuves de celles que vous avancez? Très brièvement, parce qu'on doit donner la parole à Monseigneur Pax André.
Madame, avoir participé à la prise de Bukavu, c'est-à-dire qu'il n'était pas, il était là, n'est-ce pas, dans ses opérations, conjointement avec les autres commandants qui ont fui de Bukavu jusqu'ici. C'est dans ce sens que nous sommes allés dire que, comme lui faisant partie de ceux-là qui ont fui à Bukavu, il est réel d'avoir les doutes qu'il ne puisse pas fuir encore à Uvira. C'est juste une manière de contester, de l'encourager. Si jamais les Congolais admettaient qu'il est resté là, de l'encourager alors de prendre cette responsabilité à main, parce que ce n'est pas facile, madame. Il faudrait avoir un homme tellement confiant et qui a des rapports très intrinsèques avec la population. Merci. Pour l'accompagner dans cette lutte de grande envergure afin de récupérer Bukavu et Goma, madame.
Merci.
C'est pour cette contestation.
Merci.
Mais
François
Guilima. Mais ça demande aussi un dialogue à l'interne, madame. C'est que l'autorité n'a pas réussi à faire parce qu'elle est absente.
Merci François Guilima. Monseigneur Pax André, Mariki Thomas Imango, coordonnateur national de la coalition nationale, voilà pour la CPI-RDC. Vous êtes aussi coprésident du réseau international d'accompagnement des victimes d'atrocités, coordonnateur régional Afrique de la coalition des ONG pour la démocratie et la justice en Afrique. Comment vous analysez cette situation, Monseigneur Pax André? Mariki Thomas Imango.
Oui, merci beaucoup, madame. Je voudrais commencer à présenter mes condoléances à la famille des jeunes Congolais qui nous a quittés à cet tricot. Le Congo n'a plus besoin de perdre des citoyens dans ce contexte où la guerre est imposée à l'Est. Depuis plusieurs décennies, ça ne fait qu'aggraver la situation des crimes internationaux, en particulier des meurtres et des massacres, du moins des populations. Je m'accompagne également avec les blessés. Je venais de suivre monsieur le ministre provincial, je pense, le porte-parole du gouvernement provincial, qui nous a donné des statistiques qui sont alarmantes. C'est pour dire que la situation a été sérieuse. Et quoi qu'il en soit, ce qu'il ne veut pas avouer, mais tout expert en balistique comprendrait mieux que lorsqu'il y a une balle qui a touché une personne qui se trouve dans la foule, il y a toujours des répercussions à la sortie. Et lorsque les balles sont tirées, les victimes pourraient être comptées au-delà de ce qu'il a soulevé. Je m'attendais également dans cette introduction qu'il puisse nous dire qu'il y a déjà une commission d'enquête qui était ouverte et là il est resté muet. Et c'est pour dire que peut-être le gouvernement provincial du Sud Kivu n'a pas pris ses responsabilités à main. Alors, ça c'est une des choses. Maintenant, s'il faudra revenir autour de la question qui concerne les causes de ce qui s'est passé au niveau d'Ouvira, la question d'Ouvira devrait être prise au sérieux. Nous devons nous réaliser que c'est dans l'espace territorial d'Ouvira où ça se passe les sources et les motivations de toutes les guerres que nous avons connues au Congo. Depuis l'AFDEL et les autres, les causes sont toujours là. Et les confrères et les compatriotes qui sont à Ouvira, ils ont vécu, ils sont en train de vivre la situation contrairement à nous autres qui se trouvent dans l'ensemble du territoire, en dehors de leur territoire. Ils ont vécu ce qui s'est passé lorsque Goma était tombé, Bukavu, et aujourd'hui, c'est grâce à leur patriotisme et Ouvira continue à être protégé. On ne sait pas nous faire avaler que Ouvira a été protégé entièrement par le seul fait, du moins, de la capacité de nos forces armées. Mais non, c'est pourquoi je soutiens la position, du moins, de mon collègue de la société civile et qui parle, du moins, des guetteurs de la sécurité. Et là, il faudra souligner à ce niveau que la sécurité au niveau d'Ouvira est tributaire de la réponse que Kinshasa devrait donner. On ne sait pas comprendre dans un état de droit des personnes qui manifestent leurs droits constitutionnels, mais également leurs droits internationaux, qui est les droits de la souveraineté, puisse recevoir une réaction farouche de nos forces armées ou bien des agents de l'ordre, lorsque nous avons les fronts qui sont en train de traumatiser la population du jour au jour. On n'a pas besoin de compter les morts parmi les citoyens, mais plutôt de l'autre côté.
Alors, vous avez suivi la réponse du ministre provincial par rapport à à l'action menée par l'armée. Il y a eu certains Congolais, certains civils manipulés, comme instrumentalisés, comme il a qualifié lui-même, par l'ennemi, qui voulait assiéger l'endroit où était le général Gassita.
Non, en fait, c'est ça, je voudrais arriver, évidemment, vous êtes arrivé avec mon réflexe. Personnellement, j'ai toujours déconseillé ces génériques politiques qui se développent au Congo. Quand tout le monde exprime sa liberté d'expression, on les taxe le plus souvent à quelqu'un qui fait le jeu de l'ennemi. Mais qui fait le jeu de l'ennemi? Nous sommes dans une émission, mais si on était dans une conférence, je pouvais décortiquer avec le ministre, sur base d'une méthodologie pédagogique, qu'est-ce qu'on appelle l'ennemi, et lui présenter des faits pour dire que les gens qui feraient le jeu de l'ennemi seraient peut-être investis du pouvoir public. Mais peut-être je vais y arriver en lui répondant à une question qui est fondamentale. C'est celle de savoir que, puisqu'il a dit, la nomination du général Gassita, ça relève de la compétence exclusive, du moins des militaires. Mais il a oublié
un élément important hein, par rapport au droit constitutionnel, au droit international, et qui parle de la souveraineté qui opère. Et la question de savoir, est-ce que le peuple peut s'opposer à une nomination faite dans l'armée? La réponse à cette question, je pense que ça va l'aider, et pas seulement lui, ça va aider les gouvernants pour qu'ils puissent rester attentifs à l'appel du peuple, à la volonté du peuple, étant donné que la sécurité d'un pays est à la fois une relation réflexive et une relation symétrique. Réflexive dans ce sens, c'est que la population garde sa propre vie, sa propre sécurité. Les autorités militaires et consorts également ont besoin de la sécurité et aussi gardent leur propre sécurité. Et symétrique, en ce sens, c'est que la population a besoin des autorités pour assurer sa sécurité et les autorités ont besoin de la population pour assurer aussi leur sécurité. Et ce sont ces deux relations ensemble qui favorisent à ce que une armée soit puissante dans cette approche de, je pense, Hans Morgenthau qui en avait parlé lorsqu'il parle de soft power. Et il voit l'influence psychologique et idéologique par rapport à la puissance d'une armée. Et il ajoute, lorsqu'il parle de hard power, il voit comment pourrait être la capacité d'une armée à orienter les décisions politiques et militaires sur base, du moins, de l'influence de cette relation avec la population. Si la population n'est pas avec l'armée, il est difficile que l'armée puisse gagner la guerre.
Donc, il y a un problème de confiance entre...
La question, une ministre, et termine par cette réponse ici.
Rapidement.
Pour que je ne me perde pas. J'étais en train de parler sur la question, la réponse ici, la question de savoir si le peuple peut s'opposer à une nomination faite dans l'armée. Mais la réponse est simplement oui. Et c'est simple. Et là, je pars embrasser Charles de Gaulle. Il en parlait déjà dans son mémoire de guerre et mémoire d'espoir, après certainement la Seconde Guerre mondiale. Mais il dit également que la population doit exercer cette souveraineté dans plusieurs contextes. Et là, je vais vous citer deux contextes, peut-être trois.
Alors, essayez, non. Il faut vraiment vous résumer, Monseigneur Pax André. Hein.
J'aimerais dire.
Voilà, oui. On court derrière le temps.
Oui, c'est fondamental, madame, puisque ce qui se passe chez nous comme crise, ce n'est pas une originalité, ça s'est déjà passé ailleurs. Et nous devons retrouver des réponses, certaines réponses pour résoudre cette crise dans l'expérience d'autres civilisations, d'autres nations. Alors, partant, j'ai parlé sur le manque de confiance envers les autorités. Et là, c'est lorsque le peuple reçoit qu'une nomination a été motivée sur base des intérêts personnels, politiques ou ethniques, plutôt que par le mérite ou la compétence. Le peuple peut s'opposer à une nomination faite dans l'armée. Secondo, lorsqu'il y a une perception d'incompétence ou de corruption, des nominations qui sont perçues comme de favoritisme des individus incompétents ou corrompus, mais le peuple peut également s'opposer. Et pour finir, je voudrais parler de l'influence politique ou ethnique. Mais lorsque les nominations sont perçues comme étant influencées par des considérations politiques ou ethniques, mais le peuple, hein, au-delà de tout critère d'objectivité, le peuple peut s'y opposer. Et c'est ce qui arrive dans le contexte du général Olivier Gassita.
Merci, Monseigneur André.
C'est un mépris, c'est une manque de considération de leurs préoccupations au regard de tout ce qui s'est passé à Bukavu.
Alors, on va vous redonner la parole, Monseigneur Pax André Marie Massimango, juste le temps d'ouvrir le standard et donner la parole à ces nombreux auditeurs qui nous suivent, qui veulent aussi intervenir. Je veux vous demander d'être concis dans vos réponses parce que on court vraiment derrière le temps. On va aller en Égypte. Il y a un auditeur qui nous appelle depuis, non, pas l'Égypte. Il est plutôt à Kalemi, dans la province du Tanganyika, me dit-on. On va le prendre rapidement pour Didier Kabi.
Satya Sangwa depuis la ville de Kalemie dans la province du Tanganyika. Nous l'avions dit dès le début de la prise de Goma et Bukavu par l'AFC-M23 que l'apparition de Wazalendo était un entretien d'une nouvelle rébellion par le gouvernement congolais qui risque de sombrer le pays dans les années à venir. Voilà aujourd'hui les conséquences. Parce que les Wazalendo ont juré de ne pas voir le colonel Gassita, la population prise en otage par les Wazalendo ne peut faire le contraire que jouer ses rôles pour plaire leurs bourreaux.
Alors, il voulait parler du général Gassita. Alors, Didier Kabi, comment vous répondez à cet auditeur? Une brève réponse.
Madame, pour la question posée. Ça, c'est M. Sangwa à partir de Kalemie, dans la province du Tanganyika.
Monsieur Didier,
il pose un problème.
Oui, allez-y.
Il pose un problème par rapport à l'apparition de l'aspect Wazalendo dans cette guerre qui pourrait constituer une bombe à retardement si elle n'est pas bien encadrée dans cette guerre. Ça, c'est sa préoccupation. Je voudrais, madame, apporter une précision à l'opinion actuelle et plus particulièrement ce que nous vivons, nous, au sud Kivu, et plus particulièrement dans la ville d'Uvira et dans les quatre territoires qui sont sous notre contrôle. Les VDP, ils sont le patriote Wazalendo. Ils se sont adonnés pour lutter contre l'agression ennemie afin de défendre bec et ongle l'intégrité territoriale de notre pays, devraient plutôt être encouragés pour ce sens élevé du patriotisme. Je dois par contre préciser que cette nouvelle donne nous a beaucoup aidés pour maintenir les zones qui sont encore sous notre contrôle actuellement. Il se pose juste un petit problème. Le problème qui se pose, c'est un problème de coordination des structures qui se réclament appartenir aux associations des Wazalendo. Et c'est ce sur quoi nous devons beaucoup plus travailler pour que finalement nous puissions avoir une seule coordination qui puisse donner des orientations et des orientations qui vont en totale collaboration avec nos forces armées de la République. Voyez-vous, mais si quelqu'un tente à montrer que cette nouvelle donne vient perturber ce qui devrait nous aider à avancer, nous, au regard de la réalité dans les zones qui sont sous notre occupation, je les comprends parfaitement, notre compatriote Sangwa, parce qu'il se trouve dans une zone sans problème. Et il ne comprend même pas.
Il y a eu quand même des affrontements.
On évolue ici.
On a dénoncé plusieurs fois les affrontements entre Wazalendo et les forces armées de la RDC. S'ils sont en collaboration, comment on explique ces affrontements? Essayez de vous résumer, hein, monsieur le porte-parole.
Merci beaucoup. Pour me résumer, hein, je voudrais dire que les compatriotes Wazalendo qui se sont adonnés pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays travaille en étroite collaboration avec les FRDC. Parce que, d'ailleurs, à chaque fois qu'ils doivent poser un acte quelconque, ils ont des réunions préalables avec les commandants secteurs, les commandants régions. Mais, il faut qu'on se dise les choses clairement. Comme les co-débatteurs venaient d'analyser, de faire son analyse par rapport à la nomination d'un officier et son réfugié, par exemple, par la population, les Wazalendo ont partagé leur avis par rapport à ce qu'ils estiment avoir comme jurisprudence de la foi passée. Et en tant que tel, je leur ai dit encore l'avant-midi, nous, en tant qu'autorité politico-administrative, le profil qui a conduit l'état-major général à nommer le général Gassita n'a pas été concerté avec le gouvernement provincial du Sud Kivu avant de l'envoyer. Parce que c'est un domaine réservé. Et donc, si les Wazalendo ont pris position en montrant combien de fois cette personne n'était pas la bienvenue au regard de ce qu'ils ont avancé comme argument dans leur côté et qui n'engage que nous à notre niveau. Nous ne pouvons pas non plus dire que ces Wazalendo, au regard de leur dynamisme, ils ne nous ont pas aidés en tant que gouvernement provincial du Sud Kivu, au regard de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et de la situation d'Ouvira comme zone opérationnelle.
Alors, l'armée apporte son soutien total au général Gassita. Les Wazalendo demandent son départ d'Ouvira. Vous, vous vous positionnez au gouvernement provincial?
Je venais de répondre à cette question, madame.
En une phrase.
La réponse que j'ai donnée est celle-ci.
En une phrase, monsieur Kabi, s'il vous plaît, vous êtes du côté de Wazalendo ou de l'armée?
Je disais ceci. La nomination du général Gassita n'a pas été partagée préalablement avec le gouvernement provincial parce que le gouvernement n'est pas compétent d'interférer dans cette matière.
Merci. Je pense que vous avez...
Les Wazalendo ont montré leur position. Alors, il appartient à l'état-major général. C'était ce que j'ai fait comme recommandation.
Merci. Je pense que...
C'était une mission urgente pour essayer de comprendre la vraie donne sur terrain. Et sur base des éléments qu'ils auront récoltés, ils pourront lui permettre de prendre une décision qui puisse nous permettre de trouver la paix et la paix durable.
Merci. Monsieur Didier Kabi, très rapidement, on va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis l'Égypte, je pense, hein, depuis la ville du Caire en Égypte.
Je suis Jules Maguené. Je vous appelle depuis Caire en Égypte. Je pense que la population est instrumentalisée par les Wazalendo qui ont échappé au contrôle des FARDC et du gouvernement congolais. L'armée est républicaine et professionnelle. Elle connaît la capacité de chaque commandant et les rôles que chacun peut jouer selon les moments et les contextes. Et que donc, il ne revient pas à la population ou aux Wazalendo de mettre chaque élément à sa place. Je pense que la population doit laisser les général Olivier Gassita faire son travail pour ne pas déstabiliser le plan qu'a le gouvernement congolais et l'armée congolaise pour sécuriser cette partie qui n'est pas encore entre les mains de l'AFC-M23.
Alors, François Iguilima, comment vous réagissez au propos de cet auditeur? Soyez concis, s'il vous plaît.
Oui, madame, je suis surpris d'abord du ministre des Communications provinciales qui décline la compétence provinciale la compétence en disant que, comme ils n'ont pas préalablement été informés, ils ne peuvent pas s'ingérer dans ces dossiers. Pourtant, madame, il y a toujours de l'immigration qui s'est fait continuer le boulot. Elle mérite de certains biens de service, flambée de prix au marché, prix d'une semaine, les enfants ne dit pas, la psycho, tout ça. Alors, revenant à la question de Wazalendo et du général Gassita, madame, nous vous disons que, contrairement au ministre de l'Information, à partir de 18h, nous sommes enfermés dans nos maisons, crépitement de balles de part et d'autre. Ça signifie qu'il y a une mauvaise communication et au sein de l'armée, ce qui s'élargit au niveau du gouvernement. Si je revenais maintenant sur la question de Wazalendo, madame, c'est pas moi qui ai mis les Wazalendo sur terrain. C'est toujours une politique du gouvernement. Et je suis en train de croire que c'est une force, ça n'est pas négligé, madame. Mais il ne faudrait pas leur donner le nier avec un renforcement de communication avec les FARDC pour trouver quand même comment on peut avoir une voie de sortie dans cette crise sécuritaire qui nous accable à ouvrir aussi la crise de confiance au sein du général Gassita, madame. Je ne veux pas jeter de l'opprobre Wazalendo parce que je suis vraiment confiant des efforts qu'ils ont fournis. Mais par contre, je mets la responsabilité de l'État qui ne s'est pas formé continuellement ces Wazalendo pour nous servir de l'un dans le renforcement de la sécurité. Je suis de cela, madame, dans la société civile qui voudrait l'implication du gouvernement provincial pour déboucher à cette situation à travers un dialogue inclusif qui, évidemment, fera appel aux notabilités d'Ouvira, fera appel aux députés provinciaux et nationaux d'Ouvira, fera appel aux acteurs de la société civile pour qu'ensemble,
avec la décision du gouvernement, puissions l'accompagner, à condition que nous ayons les résultats escomptés par cette fidélisation à travers cette ordonnance, madame. Madame, je voudrais enfin chuter sur un point, si vous le permettez, que, comme je vous le disais, madame, la population d'Uvira traverse une souffrance inégalable devant le laxisme de l'État congolais. Je vous informe, madame, que nous vivons à chaque instant des crépitements sporadiques des balles. Et c'est là, en tout lieu et en tout moment, sans même motif de la guerre ici dans la ville, devant la présence de l'autorité provinciale, devant la présence de l'autorité urbaine, qui, du reste, ne saurait même pas inventorier combien de personnes sont mortes innocemment par la suite de cette insécurité, madame. Il y a des tueries ciblées, il y a des violences sexuelles enregistrées presque chaque semaine. Et devant ça, nos populations, vous voulez que nous fassions quoi, madame? C'est pourquoi nous vous avons dit que la question de l'ordonnance présidentielle, qui lie la confiance, évidemment, de l'armée à envoyer Gassita ici, parce que vous savez, même au sein de l'armée, il n'y a plus confiance au sein même des généraux. Et vous voulez que la population maintenant se place où? Je pense que cette manifestation avait sa raison d'être. C'est juste pour réveiller la conscientisation de cette armée, du fonctionnement du gouvernement, pour qu'ils aient le devoir de nous mettre à l'abri de toutes ces tracasseries, de toute cette criminalité organisée que nous connaissons, et qu'on libère Bukavu et Goma. Et que cela se passe évidemment par un accompagnement mutuel, conjoint, pour y arriver, madame.
Merci François Aiguilly, mais on va considérer cela comme votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de notre émission. Monseigneur Pax André, vous allez réagir aux propos de cet auditeur que nous allons écouter très rapidement, puis nous allons profiter aussi pour donner votre conclusion.
On écoute Charles Madika, depuis la ville de Kaminan, voilà la vraie démocratie, les droits et droits lorsqu'on le revendique. Beaucoup de traîtrises au sein de l'armée congolaise, voilà ce qui accentue toutes ces tueries dans l'est de la RDC. Combien d'officiers militaires arrêtés à cause de leur complicité avec les différentes rébellions dans la partie orientale? La voix du peuple, c'est la bonne voix.
Comment apaiser la tension dans la ville de d'Uvira, Monseigneur Pax André Marikito Masimango?
Oui, avant d'y arriver, je pense qu'il est mieux de souligner par rapport au débat de ces jours que les différents intervenants qui posent des questions doivent savoir le rôle de l'armée ou le fonctionnement de l'armée par rapport à la responsabilité de la population dans des contextes différents. Lorsque nous nous retrouvons dans des contextes de paix, l'armée a toute liberté de prendre les dispositions de son organisation. Et là, il n'y a pas de population qui viendront ou qui viennent protester contre les nominations faites dans l'armée. Ça ne s'est jamais passé au Congo depuis que nous sommes vivants au Congo. Par contre, ici, nous sommes dans un contexte spécifique de guerre. Et je l'ai bien souligné, et la guerre à cette période de la sécurité est une relation symétrique. L'armée, dans ses actes posés, doit être en accord avec la population. C'est la population qui est la principale victime et c'est la population qui va l'aider à gagner des guerres. Le cadre, du moins le contexte de Ouazalem, l'hôtel qui se retrouve là-bas, moi je peux même les appeler parfois comme des mercenaires internes. Mais ce qui n'est pas un tabou à un gouvernement, de faire appel à quiconque pour l'aider à renforcer sa capacité militaire de manière à bouter hors de son territoire l'agresseur ou le rebelle et reconstituer, rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. C'est là où il va falloir comprendre. Mais le problème qui se pose résiderait au niveau des mécanismes ou les stratégies de collaboration. Et c'est là où se trouve la différence de vision, à mon avis, entre l'armée, le Ouazalendo et la population.
Alors, Monseigneur, comment apaiser les tensions? C'est la question
du dialogue, là, que notre ami était en train de soutenir. Mm-hmm. On doit avoir un dialogue en permanence de ces différentes forces pour que nous puissions gagner la guerre. Puisque dans l'armée, on a même déploré beaucoup de traites qui sont là, il n'y a plus assez de confiance par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Est. Et ça, c'est vraiment c'est important. Je le souligne, c'est bien important dans ce contexte où nous nous retrouvons. Alors, partant maintenant de la, pour terminer, partant oui. de la situation de Olivier Gassita. Mais moi, je pense aussi de bons souvenirs. À Bukavu, on avait organisé des procès des militaires qui avaient quitté Goma pour venir se réfugier à Bukavu après la prise de Goma. Mais puis j'avais suivi, je pense à Kinshasa, il y avait aussi de telles initiatives pour amener à la barre toutes les autorités militaires qui étaient à Bukavu au moment de la chute de Goma. Mais qu'en est-il de Gassita? Moi, je le croyais devant les tribunaux pour qu'il explique quand même à la population congolaise comment est-ce qu'il avait, lui qui était chargé de la sécurité de Bukavu, comment il avait quitté là-bas et qu'il puisse répondre devant Merci. Un tribunal qui est indépendant. Mais par surprise, nous sommes en train d'apprendre qu'il serait à Uvira de nouveau, et puis à Uvira
Merci, où la population s'est Monseigneur.
Je pense qu'il faudrait aller dans la voie de la population.
Merci, Monseigneur. Alors, Monseigneur André, on vous a suivi. Vous prenez le dialogue pour apaiser les tensions hein, dans cette partie de la République. Alors, Didier Kabi, vous avez juste une minute pour conclure. Qu'est-ce que le gouvernement provincial prévoit de faire pour rassurer la population et désamorcer la tension? Vraiment, en une phrase, on est à la fin de l'émission.
Merci beaucoup, madame, pour l'émission d'aujourd'hui. Je vais tout simplement dire que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, a initié plusieurs réunions au cours desquelles des discussions ont commencé pour appeler à la préservation de la paix et la cohésion sociale, car si on doit continuer d'être divisé, l'ennemi risque de nous infiltrer. Ça, c'est un. Et d'aider l'autorité provinciale insiste encore pour demander à ce que les autorités compétentes qui ont pris cette décision, qu'ils prennent le temps de faire une descente sur terrain pour récolter les données nécessaires devant leur permettre de prendre une décision qui puisse nous apporter la paix et la vraie. Parce que si on continue dans cette cacophonie, l'ennemi risque de nous infiltrer. Et là, ce
Merci.
Sera trop tard.
Didier Kabi, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.